VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriac en direct de la capitale américaine. Vendredi 30 novembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, au moins 3 militaires ont été tués en Ituri. Soudan du Sud, 125 femmes et filles violées ou brutalisées alors qu'elles cherchaient à s'approvisionner en vivres. Au Rwanda, un journaliste de la BBC a été interpellé pour possession d'explosifs et participation à un complot. Nous ferons aussi le point sur le sommet du G20 en Argentine et le nouvel accord commercial États-Unis-Mexique-Canada. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. La nouvelle vient de tomber. La Confédération africaine de football vient de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Pour les réactions au Cameroun, retrouvons à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
La déception des Camerounais est énorme après le retrait de la CAN 2019 sous l'égide du comité exécutif de la CAF. Une déception perceptible quand on parcourt les premiers commentaires des Camerounais, notamment sur la toile. On est dessus, si vous voulez que je vous dise, parce que, estime plusieurs, le gouvernement n'a pas ménagé tous les efforts nécessaires depuis 4 ans pour doter le Cameroun des infrastructures sportives, routières, hospitalières, et ce, à temps. On est surtout dessus en rapport avec l'argument avancé par le comité exécutif de la CAF, l'argument des raisons sécuritaires dues à la crise anglophone qui dure depuis 2016. Enfin, l'on est dessus au regard des moyens financiers consentis par l'État. 150 milliards de francs CFA d'emprunt obligataires ont été collectés récemment, une somme qui est venue s'ajouter à d'autres centaines de milliards, mais les chantiers ne sont toujours pas terminés. À Garoua, à Bafoussam, à Douala, à Japoma, à Olembe, en banlieue de Yaoundé. Alors qu'adviendra-t-il de ces chantiers, stades et routes? C'est la grande question que les Camerounais se posent. Certains n'ont pas manqué, juste après l'annonce de la décision de la CAF, de demander que les responsables du dossier de la CAN soient tout simplement interpellés. Les Camerounais sont furieux de constater que l'euphorie du président Paul Biya vient d'être estompée, lui qui affirmait l'an dernier que le Cameroun sera prêt le jour J. Alors, ce dimanche, justement, le président Paul Biya va présider la finale de la Coupe du Cameroun de football, sans doute que la communion populaire, espérée par la présidence de la République, manquera à la fête. Rappelons qu'en 1972, le Cameroun avait organisé sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations et le pays avait été éliminé au stade des demi-finales.
Voilà, c'était Emmanuel Juntap, pardon. À noter également que la CAF a évoqué des problèmes de sécurité, notamment dans les zones anglophones, pour retirer la CAN 2019 au Cameroun. Réaction à Bamenda, en zone anglophone, avec notre consoeur Kiven Brenda.
Les gens sont indifférents. Ils sont indifférents, mais la majorité, je crois, ne sont même pas surprise par la décision de la CAF. Parce qu'ils se disent qu'ils n'étaient pas choisis, que Bamenda n'était pas premièrement choisi entre les villes qui devaient
accueillir
la CAN. Et Bamenda aussi est considérée comme la troisième ville qui est au Cameroun. Mais Bamenda n'était pas partie des villes choisies. Donc, les gens, il y a certains qui sont contents et il y a ceux qui se disent que le président ou le pays doivent d'abord se concentrer à résoudre leurs problèmes avant d'accueillir une compétition internationale dans le pays.
Voilà, et déception également à Garoua, hein, ville du Nord Cameroun, devant accueillir la CAN 2019. Timothée Donangmaï est joint sur place. Gabriel Amain, responsable du football local.
Bon, vraiment, nous sommes très déçus de l'apprendre. Pourtant, les travaux ont beaucoup avancé. Nous sommes à presque 80% de finition. Moi, je pense que la CAF doit être plus clémente avec le Cameroun. Dans un délai de 2 mois, comme on a demandé, je pense qu'on pouvait finir ce stade-là en 2 mois. Et la CAN ne se joue qu'en juin. Donc on a tout le temps de travailler pour pouvoir faire jouer cette CAN-là. On a vu avec la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où pendant la Coupe du Monde même, les gens étaient encore en train de retoucher des choses dans le stade. Donc, on pouvait bien laisser le Cameroun organiser cette CAN. Nous, vraiment, à Garoua, nous sommes très, très, très déçus.
Et violence en République démocratique du Congo. Au moins 3 militaires ont été tués dans des combats avec de présumés rebelles en Ituri, près de villages de pêcheurs sur les bords du lac Albert. Et c'est ce qu'ont rapporté des sources civiles et militaires citées par l'AFP. Par ailleurs, les autorités congolaises ont annoncé la fin du rapatriement des combattants rwandais FDLR, cantonnés depuis 4 dans des camps en République démocratique du Congo, et la fermeture de tous les camps de transit. Kinshasa menace aussi l'Union européenne de rétorsion si Bruxelles ne lève pas d'ici le scrutin du 23 décembre les sanctions qui visent le candidat soutenu par le chef de l'État Joseph Kabila à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Shadary. Violence contre les femmes à Bentiu, au Soudan du Sud, où Médecins sans frontières a dénombré en 10 jours 125 femmes et filles violées ou brutalisées alors qu'elles cherchaient à s'approvisionner en vivres. Suite du procès du putsch de 2015 au Burkina Faso, le général Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État manqué contre la transition, comparaît depuis lundi devant le tribunal militaire. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré a reconnu ce vendredi avoir donné 85 millions de francs CFA aux éléments du RSP qui ont participé à ce coup d'État. Comment s'est-il comporté durant ces 4 jours d'audition? La réponse de Abdoul Fatav Tiemtoré. Il suit le procès pour Omega FM à Ouagadougou.
C'est Gilbert Diendéré assez expressif et assez serein que nous avons pu observer durant cette première semaine d'audition. Contrairement à la discrétion qu'on connaît à cet homme-là, considéré comme la boîte noire du régime Compaoré, il ne nie pas son rôle dans les événements, même s'il ne reconnaît pas les infractions telles que formulées. Et pendant 2 jours, les 2 premiers jours de son audition, a passé le temps, beaucoup de temps en tout cas, à revenir sur certaines affaires concernant le Premier ministre Isaac Zida, qui est issu de leur rang. Il assume l'aspect politique de ce coup d'État. Mais pour lui, c'est juste assumer une action qui était déjà en cours. Mais avec l'accompagnement, il le précise donc à chaque fois, de la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire, justement, qu'il a chargée depuis le début, estimant donc que certains d'entre eux devaient être à la barre avec eux ou dans le box des accusés parce que, ayant donc posé certains actes qui étaient à même de soutenir le CND ou en tout cas l'action qui était en cours. Il a de temps en temps aussi un peu le ton quand il y a des questions où visiblement on sent qu'il est un peu coincé. Il a même refusé de répondre à certaines questions, justement sur certaines déclarations des chefs militaires ou d'autres personnes citées comme témoins par le parquet militaire.
Côte d'Ivoire, les écoles de Boaké sont restées fermées pour une seconde journée consécutive pour protester contre les violences des gardes pénitentiaires contre des étudiants. Il faut dire que 8 étudiants ont été blessés, dont 5 par balle, mercredi soir, lorsque des gardes pénitentiaires ont investi leur campus et ouvert le feu à la suite d'une rixe dans un bar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les dirigeants des 20 premières puissances de la planète réunis en Argentine. Le sommet du G20 a débuté aujourd'hui à Buenos Aires dans un contexte de profonde division. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé la pratique vicieuse des sanctions unilatérales et du protectionnisme commercial peu avant l'ouverture du sommet. Toujours à Buenos Aires, le président américain Donald Trump, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président sortant du Mexique Enrique Peña Nieto ont signé l'accord États-Unis-Mexique-Canada après des mois d'âpres négociations. L'AEUMC succède à l'accord de libre-échange nord-américain, plus connu comme l'ALENA, qui était en vigueur depuis près d'un quart de siècle. Et crise des migrants à la frontière mexicaine. Les Nations Unies ont indiqué avoir aidé à rentrer chez eux des centaines de personnes venues d'Amérique centrale et qui avaient formé de vastes cortèges pour tenter de rejoindre les États-Unis. Conflit en Syrie, l'armée israélienne a bombardé plusieurs secteurs du sud de Damas, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les médias syriens ont évoqué des tirs anti-aériens contre des cibles hostiles, alors qu'Israël n'a pas confirmé avoir mené de raid, mais démenti que ses avions aient été touchés par la DCA. Il s'agirait des premiers raids de l'État hébreu depuis septembre, lorsqu'un avion russe, souvenez-vous, avait été abattu accidentellement par la DCA syrienne, suite à des tirs israéliens. Sachant enfin que l'Union européenne avait besoin de plus de temps pour présenter son mécanisme devant aider Téhéran à vendre son pétrole malgré les sanctions américaines. C'est en tout cas ce qu'indique Téhéran, tout en disant qu'il ne pouvait pas attendre indéfiniment. L'Union européenne travaille sur la mise en place d'un mécanisme devant faciliter les transactions financières et les ventes de pétrole iranien après la décision des États-Unis de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien et de rétablir unilatéralement des sanctions contre l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La société automobile allemande BMW a annoncé un projet pilote pour améliorer les conditions de travail dans les mines de cobalt en RDC. L'initiative est soutenue par le géant de la chimie BASF, le fabricant de batteries Samsung SDI et l'agence allemande de développement GIZ. D'après Reuters, le projet étudiera pendant 3 ans les moyens d'améliorer les conditions de travail et de vie dans une mine des régions où le cobalt est extrait. Toutefois, BMW n'achètera pas directement le cobalt de la mine qui sera exploitée par une coopérative locale. En Côte d'Ivoire, Société Agricole veut reprendre pour 145 milliards de francs CFA la SAF Cacao, quatrième exportateur ivoirien de cacao, mise en liquidation judiciaire en 2018. Selon le groupe de presse Bloomberg, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA sera dédiée au fonds de roulement de la SAF Cacao, tandis que le reste du montant sera versé sur 10 ans. Les 15 milliards de francs CFA devraient être remboursés avant la conclusion d'un accord final. Pour finir, cette semaine, le sucre a atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois à 353,80 $ la tonne à Londres et à 13,21 cents à New York. Néanmoins, les perspectives ne sont pas très bonnes selon les commentateurs. La baisse des cours du pétrole pèse sur les prix du sucre dans le sens où une baisse des prix de l'or noir rend l'éthanol, fabriqué notamment à partir de canne à sucre, moins compétitif au Brésil.
Sur les stades, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La CAF a donc retiré la CAN 2019 au Cameroun.
Réuni à Accra, en marge de la CAN féminine, le comité exécutif de la CAF a tranché. Le Cameroun n'organisera plus la CAN 2019. Récemment, les inspecteurs de la CAF ont effectué une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements. Le pays de Samuel Eto'o et de Roger Milla n'est pas prêt à décider la CAN. Le Cameroun écarté, la CAF devra relancer une nouvelle procédure d'appel à candidature pour désigner un autre pays hôte, une chose qui sera faite dès demain samedi. Le Maroc est régulièrement cité par les médias comme possible remplaçant du Cameroun. L'Afrique du Sud devrait aussi postuler pour cette CAN qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019.
Salah, Mané et Aubameyang parmi les nommés pour le Ballon d'Or africain.
Et oui, l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah, tenant du titre, fait partie des nommés, aux côtés des autres cracks comme ses coéquipiers en club, le Sénégalais Sadio Mané et le Guinéen Naby Keïta et le Gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Parmi les 34 joueurs retenus, on trouve aussi les Sénégalais Idrissa Gueye d'Everton, Khalidou Koulibaly de Naples, l'Algérien Riyad Mahrez de Manchester City, le Marocain de la Juventus Mehdi Benarsia. Le gala de remise des prix se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal donc.
Kinshasa rêve de remontada en finale retour de la Coupe CAF.
Battu par le Raja en finale aller à Casablanca, l'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibengue, promet de renverser les Verts dans la capitale congolaise. Le coach des Dauphins Noirs a déclaré que ses joueurs comptent réaliser une remontada historique contre le club marocain. Dimanche prochain, l'AS Vita Club et le Raja se connaissent pour avoir déjà été adversaires en match de poule 0-0 à Casa en mai, 2-0 au stade des Martyrs à Kinshasa en août dernier.
La finale de la Copa Libertadores s'invite à Madrid.
Oui, la finale retour de la Copa Libertadores entre les deux clubs rivaux de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors, se jouera le 9 décembre au stade Santiago Bernabéu. L'annonce a été faite par la CONMEBOL, la Confédération Sud-Africaine de Football. Initialement programmée le 24 novembre au stade monumental de River Plate, la rencontre a été reportée en raison de l'attaque de l'autocar transportant les joueurs de Boca Juniors. Lors de la finale aller le 10 novembre, jouée au stade de la Bombe Bonera de Boca Junior, le duel s'était soldé par un match nul 2-2.
Merci Yacouba. de retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Cap sur le Congo-Brazzaville, reprise ce matin des activités à l'université Marienne Gwabi, fermée depuis 3 mois. Le personnel qui réclamait essentiellement le paiement de 6 mois de salaire va se contenter du versement d'un mois, en attendant de poursuivre les négociations avec le gouvernement. Le point avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est au terme d'une assemblée générale qui a duré toute l'après-midi de jeudi que la décision de reprendre les activités à l'université Marien Gwabi a été prise. Plusieurs avis divergents sur la levée ou non de cette grève ont finalement débouché sur la reprise du travail dès aujourd'hui vendredi. Dans une déclaration, les syndicalistes appellent tous les travailleurs de l'université à reprendre les cours à la suite de quelques points satisfaisants obtenus lors des discussions avec le gouvernement.
Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. Versement de la subvention de fonctionnement. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. Demande à l'ensemble des travailleurs de l'université Marien Gwabi de rester sereins et vigilant, se réserve le droit de déclencher à tout moment une autre grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Fait à Brazzaville le 29 novembre 2018, l'Assemblée des syndicalistes.
La levée de la grève a été précédée par d'intenses négociations directes avec le Premier ministre Clément Mouamba. Les syndicalistes avaient exigé que le ministre de l'Enseignement supérieur ne participe pas à cette rencontre, estimant que ce dernier n'avait jamais souhaité dialoguer avec les universitaires en grève. Pour Gabriel Bisanga, responsable syndical à Marien Gwabi, le tout se joue maintenant au niveau des engagements pris par les autorités.
On souligne un point important. On se réserve le droit de déclencher une grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Nous restons attachés au respect des engagements qu'ils ont pris. L'année passée, nous avons suspendu la grève par patriotisme. Maintenant, nous avons eu des engagements de la part du gouvernement. Nous espérons que le gouvernement tiendra parole.
Déclenchée le 6 septembre dernier, cette grève a paralysé toute l'université Marien Gwabi, alors que les nouveaux bacheliers 2018 attendent toujours d'être inscrits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. En Côte d'Ivoire, les usagers du téléphone se plaignent régulièrement de la mauvaise qualité des communications. Une situation qui a mené l'organe de régulation des télécommunications à menacer de prendre des sanctions si rien ne change. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens qui grognent contre la mauvaise qualité du réseau téléphonique sont nombreux.
Oui, ça nous crée des préjudices, surtout l'Internet. Il y a des fois, tu souscris, bon, nous qui travaillons un peu avec les portables, il y a des fois, tu souscris, tu n'arrives pas à naviguer, et puis bon, le délai passe.
Vraiment, le réseau de Côte d'Ivoire, quand tu payes pas Internet, d'abord, tu n'arrives pas à naviguer. C'est pas ça, vraiment, ils ont qu'à essayer d'améliorer un peu, sinon, c'est pas bon.
C'est vraiment dur pour moi. Tu appelles quelqu'un en te disant qu'il n'est pas disponible.
Cette mauvaise qualité du réseau téléphonique a un impact négatif sur les activités économiques. Mireille Boiseau, la trentaine, est gérante d'une entreprise de transfert d'argent dans la commune du Plateau, le quartier des affaires à Abidjan.
Quand les clients viennent, quand nous faisons les transferts, des fois ça ne va pas. Les clients se plaignent.
Face à cette situation, la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, menace de retirer la licence aux compagnies qui ne prendront pas des mesures pour améliorer leurs services. Billy Diemeleou, directeur général de la RTCI.
Nous, en tant que régulateurs, c'est de veiller à ce que la qualité de service soit bonne. Nous insistons auprès des opérateurs, nous leur rappelons leur cahier des charges, leurs obligations. Et ils sont tenus de faire de sorte que la qualité de service soit de mise. Et le régulateur, c'est son rôle. Et je pense que ce rôle-là est joué. Mais nous allons prendre des mesures plus dures maintenant. Et je pense qu'ils en tiendront compte. S'ils ne respectent pas, on ira même jusqu'au retrait des licences.
Mais comment expliquer cette dégradation du réseau téléphonique, Billy Diemeleou?
Les opérateurs eux-mêmes attirent notre attention sur un certain nombre de difficultés. Ils ont commencé à entreprendre des travaux sur leur réseau. Donc, ils ont trouvé que ces travaux, non seulement qu'ils ont signalé, ça allait perturber les qualités du réseau. Donc, nous en avons pris bonne note. Ensuite, ce réseau se dégrade aussi. Il y a les actes de vandalisme qui parfois sont causés sur les réseaux des opérateurs, surtout par rapport à la fibre optique, des vols de batterie, des vols de panneaux solaires, ainsi de suite. Et tout ça, ça permet pas au réseau d'être, disons, de très bonne qualité. Mais il peut arriver aussi que notre système d'énergie qui fluctue, quand il fluctue, bien, ça dégrade aussi, ça perturbe le réseau. Puis parfois aussi, il y a des travaux de génie civil qui se déroulent par rapport à la création des routes. Et ça aussi, ça endommage des infrastructures techniques et aussi ça crée des désagréments.
Au premier semestre 2018, la Côte d'Ivoire comptait 3 opérateurs de téléphonie mobile qui se partageaient près de 35 millions d'abonnés. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le nouveau découpage administratif et l'exploitation anarchique de l'or créent des mécontents dans l'extrême nord du pays. Certains accusent le gouvernement de profiter de la menace des rebelles dans cette partie du pays pour s'en prendre aux orpailleurs. Une situation que dénoncent les cadres de la province du Tibesti en proie à la violence. À N'Djamena, le reportage d'André Konmajinga.
La population de la zone de Tibesti dans le nord du Tchad est entre le marteau des rebelles qui menacent le fauteuil du président Déby et l'enclume des individus se réclamant du régime au pouvoir qui exploitent l'or de façon clandestine. Comble de malheur, un nouveau découpage administratif rattache la zone productrice de l'or à une autre province. Et pour se faire entendre, les habitants de la localité se constituent en un groupe d'autodéfense pour contrecarrer l'exploitation illégale de cette richesse. L'ex-sous-préfet de Yibobo, Mouli Sougui, qui a démissionné de son poste, dirige aujourd'hui le comité d'autodéfense.
Depuis l'apparition de l'or à Miski, Déby et ses proches voudraient à tout prix exploiter cette richesse. C'est ce que nous n'acceptons pas. Le comité d'autodéfense dont je suis le porte-parole n'a pas de revendications spécifiques. Sinon, l'exploitation dans un cadre légal avec le respect des quotas minières, nous n'avons aucun lien avec quelque groupe que ce soit. Nous sommes une population civile. Nous défendons notre honneur et notre dignité.
Pour Djidi Halaï Mahamat, député du département de Tibesti Ouest, ce problème ne peut être réglé que si le gouvernement reconsidère sa position et applique le code minier.
C'est le département de Emikoussi qui est attaché à la province de Burku qui a causé le problème. Donc nous souhaitons régler ce problème d'une manière légale parce que la violence ne réglera rien. On vient d'adopter il y a quelques mois le code minier. Je pense que si nous respectons les termes, on va régler ce problème d'une manière définitive.
Ce qui se passe dans le Tibesti ressemble à la guerre de David contre Goliath, estime Ahmad Ramadan, un jeune cadre de la localité.
Le seul responsable de ces hostilités, c'est le gouvernement tchadien. Là, je le dis très sincèrement, comme les gens s'opposent à la volonté du régime en place, on débarque avec une colonne de plus de 100 véhicules et nettoyer la population. C'est vraiment honteux qu'un gouvernement aille bombarder sa propre population.
Ahmad Mohamed Bachir, ministre en charge du commerce, des mines et du développement industriel, affirme à VOA Afrique que le code minier ne sera appliqué que lorsque le gouvernement aura maîtrisé la situation dans cette partie du pays.
Le gouvernement a fait le découpage sur l'ensemble du territoire national. Ailleurs, le problème ne s'est pas posé. Pourquoi le problème se pose là-bas? Le code minier, c'est une loi qui est là. Vous allez voir que les gens, la sécurité sera assurée à 100%. C'est le code minier qui sera mis devant pour réglementer toutes les activités là-bas.
3 chefs de canton de la sous-préfecture de Yébobou qui ont contesté le morcellement de leur localité sont non seulement révoqués de leurs fonctions, mais leurs circonscriptions ont été dissoutes par un décret présidentiel. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ouverture ce vendredi du sommet du G20 à Buenos Aires. Les leaders des 20 pays les plus riches du monde se penchent sur plusieurs dossiers, mais les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine d'une part et les États-Unis et l'Europe d'autre part risquent d'éclipser les autres sujets. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Michel Fauquin, conseiller au Centre d'études et prospectives d'information internationale.
La guerre économique qui a été déclenchée par les États-Unis va absolument dominer complètement les débats du G20. Et c'est surtout l'affrontement entre les États-Unis et la Chine qui va sans doute dominer tous les débats. Et ça, c'est un peu regrettable parce qu'après tout, il y a d'autres sujets aussi importants comme le réchauffement climatique qui auraient pu être mis à l'ordre du jour. Cela étant, on s'interroge donc pour savoir si les États-Unis vont mettre en pratique leur menace de taxer les exportations chinoises à destination des États-Unis de 25%, ce qui est tout à fait considérable. Alors, ce qu'il semble à l'heure actuelle se profiler, c'est que les États-Unis et la Chine vont se mettre d'accord pour ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire retarder la décision qui devait être prise au 1er janvier 2019, la retarder de quelques mois pour laisser le temps aux négociateurs arriver ou ne pas arriver à un compromis.
Pour ce qui est de l'Europe, par exemple, l'Europe a des préoccupations concernant les taxes sur l'aluminium et l'acier.
Oui, mais c'est, je dirais que sur l'aluminium et sur l'acier, bien sûr, c'est gênant, mais plus grave, il y a une menace qui est beaucoup plus importante, c'est la menace qui porte sur les automobiles, la taxation des automobiles, notamment allemandes, à destination des États-Unis serait une mesure extrêmement grave en termes de conséquences économiques pour l'Allemagne. Et donc l'Union européenne va tout faire pour essayer d'éviter cette situation.
Et le président Trump, en fait, estime que le système international est un peu injuste envers les États-Unis. Vous pensez que c'est une crainte qui est justifiée?
Alors, si on regarde la situation des États-Unis, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un déficit commercial américain qui est très important. Mais, d'un autre côté, si l'on regarde qui est responsable de ce déficit, on s'aperçoit que c'est pour une bonne partie des grandes entreprises américaines qui ont investi en Chine et qui, à partir de la Chine, exportent vers les États-Unis. Je veux dire, prenez une société comme Apple. Apple, qui est une société tout à fait remarquable par la qualité de ses innovations, eh bien, Apple ne produit rien aux États-Unis en termes de production industrielle. Tout est produit en Chine. Et ça, c'est Apple qui le décide. Ensuite, Apple fait des profits considérables. Et pendant toute une période, Apple refusait de rapatrier ses bénéfices aux États-Unis.
Voilà, c'était Michel Fauquin, joint à Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Loumami, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir. Fango.